contexte, les cours du pétrole sont repartis à la baisse, à $40 pour le baril de la mer du Nord. Total a décroché en conséquence de 3,7% et Technip FMC de plus de 7%. Le secteur informatique a lui aussi contribué à la déprime des investisseurs après l'abaissement des objectifs annuels de SAP. Le géant allemand des logiciels a plongé de 22% à Francfort et entraîné avec lui les Français Capgemini en repli de 6,3% et Atos qui a perdu 3,2%. C'était Cécile Lecause d'Investir pour RFI.
Merci Cécile. Ainsi s'achève le journal. Merci à vous de l'avoir écouté.
Radio G. www.radio-g.fr.
Vous écoutez sur le 101.fm à Angers et c'est maintenant l'heure de l'oreille curieuse, votre quotidienne dédiée aux actualités culturelles et locales. Au programme ce soir, il sera question de philosophie avec le croque-philo préparé par Émilie. Bonsoir Émilie.
Bonsoir Annie. Et bonsoir à tous.
On retrouve ta chronique en deuxième partie d'émission. Il sera question de création de la résidence de l'artiste Karl Marquis. Un artiste qui travaille en ce moment à Angers, à l'invitation du collectif Blast. Sa résidence se termine cette semaine, ce vendredi, et vous saurez tout d'ici quelques minutes. Ce soir, je suis très heureuse de vous dire que cette émission a été préparée par moi-même, comme d'habitude, Anne-Lie, mais aussi et surtout par Céleste. Bonsoir Céleste.
Bonsoir.
Merci d'avance pour ton aide.
Je t'en prie.
Et le proverbe que nous vous offrons ce soir, puisqu'on fait ça dans cette émission, est « Seuls les poissons morts suivent le courant ». Je vois que le studio est en ébullition à l'énoncé de cette phrase. Et bien sûr, on va commencer cette émission avec un titre. C'est « Jusqu'ici, tout va bien », chanté par Clou.
Oh, t'en sais rien, jusqu'où tiendra le mirage, l'illusion que tout va bien. Mais t'en sais rien, oh, t'en sais rien, tu souris comme une image, est-ce au diable ou au saint? Le faux comme une flèche qu'on décoche, blesse ceux qui tenteraient une approche. Mais jusqu'ici tout va bien, d'ici on ne voit rien. Jusqu'ici tout va bien, d'ici on ne voit, d'ici on ne voit, d'ici on ne voit rien. Tu en joues, tu en joues, des ombres chinoises, des nuits à crier au loup. Jusqu'ici tout va bien, d'ici on ne voit rien. Jusqu'ici tout va bien, d'ici on ne voit, d'ici on ne voit, d'ici on ne voit rien. Tout va, rien ne se voit. Jusqu'ici tout va bien, d'ici on ne voit rien. Jusqu'ici tout va bien, d'ici on ne voit, d'ici on ne voit, d'ici
Et on parle d'art ce soir et de résidence. Je passe le flambeau à Céleste, qui va nous parler de nos invités.
Alors, Karl Barki, bonsoir.
Bonsoir.
Vous venez de Rennes, vous êtes diplômé en art depuis 20 ans, et vous êtes artiste et intervenez régulièrement avec les enfants. Vous êtes cette année dans la programmation du collectif Blast, qui est une association à but non lucratif qui sert de plateforme aux artistes locaux et des alentours pour des expositions, performances, conférences. Collectif représenté aujourd'hui par François Brunet, bonsoir.
Bonsoir.
Vous vivez et travaillez à Angers, vous êtes également artiste en art visuel. Bienvenue et merci à vous deux d'être là. Alors, j'ai parlé d'art visuel, est-ce que ça correspond bien à ce que vous portez avec le collectif Blast et qu'est-ce que ça veut dire concrètement ?
Oui, alors c'est bien un collectif qui s'occupe essentiellement d'art visuel, bien que quelquefois les programmations peuvent être hybridées avec d'autres pratiques sonores notamment, ou d'autres pratiques. Mais oui, c'est exactement ça. Donc le collectif met en place des résidences d'artistes, hein. C'est pour ça que Karl est là d'ailleurs pendant 15 jours. Des résidences, donc assez, enfin il y en a à peu près 6 ou 8 par an. Voilà, je vais pas toutes vous les énoncer, vous pouvez les trouver sur le site du collectif Blast, mais à la suite de Karl, on aura Michel Bidet qui habite Angers, Jésic Nez qui vient d'un peu plus loin, Méliane Jouve, Philippe, Johan Filouz, Valérie Carpouchko, j'en passe, Julie Klimbel aussi au mois de juillet prochain. Voilà,
Là, ce soir, on parle plus particulièrement alors, de la résidence de Karl Barki et des résidences en général. Ce sont des résidences, c'est un temps où les artistes viennent travailler, viennent expérimenter, fabriquer des choses. Comment est-ce que vous choisissez les artistes que vous accueillez ou que vous invitez ?
Ben, on reçoit en fait des dossiers des artistes parce que le collectif Blast a une résonance bien plus que locale. Maintenant, puisqu'on fonctionne aussi avec des subventions de la région, des Pays de la Loire, l'Institut français, puis l'État aussi sur projet. Donc on est assez identifié, très bien identifié en région, Pays de la Loire, et puis au-delà aussi. Donc il y a des artistes qui nous envoient des dossiers. On regarde ces dossiers, si ça correspond à nos programmations, à la suite de ça, on rencontre les artistes. Et puis les choses se font dans la discussion aussi d'élaboration, l'échange en fait. C'est comme ça que la programmation s'établit.
Petit à petit.
D'accord. Je me dirige maintenant vers Karl Barki. Est-ce que vous pouvez aussi nous parler un peu de votre parcours ? Comment est-ce qu'on arrive à faire des arts visuels ?
J'ai commencé par faire une formation à Rennes 2, à la fac Rennes 2 à Rennes, en art plastique. Je suis allé jusqu'en licence, ensuite j'ai commencé à avoir une pratique personnelle. Et puis assez récemment, j'ai passé en VAE aux Beaux-Arts de Lorient, le DENSEP.
Donc, qui correspond à un master pour la pratique
au master,
de l'art.
Au master 2, tout à fait.
Mm-hmm. Très bien. Et lorsque vous faites vos travaux, qu'est-ce qui vous inspire ? Est-ce que vous avez une inspiration particulière ?
Alors, ce qui m'inspire avant tout, c'est la ville. Je travaille sur la notion d'habiter. L'enfance et le jeu, ce sont les trois axes qui guident l'ensemble de mes projets. Et puis, lorsque je commence un projet, je travaille toujours sous forme de triptyque, donc en volume, en écriture et en performance.
Et pourquoi c'est important pour vous d'avoir ces trois médiums artistiques qui sont très très différents, qui peuvent être suffisants en eux-mêmes ou qui prennent aussi beaucoup de temps ? Enfin, pourquoi ce choix-là ?
Alors j'ai commencé par m'intéresser au volume et puis depuis assez longtemps j'avais envie d'écrire mais j'avais jamais trouvé en fait l'occasion. Et puis lors d'une exposition à Angers d'ailleurs à la Galerie 5 dirigée par Lucie Plessis, et bien là du coup ce travail avec la Galerie 5 a déclenché un travail d'écriture que j'ai pu réaliser.
Et vous nous avez parlé de habiter, du jeu, de l'enfance. Par rapport à l'enfance, qu'est-ce qui vous attire dans ce monde-là, dans cet univers du jeu aussi ? Enfin, il y a tellement de liens.
Alors, ce que je dis souvent, c'est que c'est pas mon enfance qui m'intéresse, c'est vraiment l'enfance des enfants d'aujourd'hui. Je ne travaille absolument pas sur mon enfance, il n'y a aucune catharsis dans
mon travail. C'est pas autobiographique ?
Pas du tout. Je m'inspire de faits réels que je croise notamment dans la ville, c'est ce que je disais tout à l'heure. Par exemple, pour le texte Promenade, que j'ai, donc le premier texte que j'ai écrit pour le projet à la Galerie 5, en fait, ce texte est venu à la suite d'un moment que j'ai vécu avec un enfant dans le métro à Rennes, et du coup il s'est dirigé vers sa maison, mais en fait sa maison était un squat, donc du coup moi je suis rentré chez moi et en quelques heures j'ai écrit le premier texte qui s'appelle Promenade. Voilà, donc je suis vraiment inspiré par la ville et puis ce qui se passe autour dedans.
Et comment investir des imaginaires dans ce que vous
absolument
voyez.
Okay.
Très bien. Donc je suis allé un peu sur votre site en préparant les questions et on peut voir différentes expositions et interventions que vous avez pu faire, et j'ai pu remarquer une certaine récurrence au rapport du quotidien, notamment avec l'exposition là qui semble être une journée du point de vue d'un enfant, avec la trottinette, les panneaux, la petite maison, le toboggan. D'où vient cette volonté de placer le quotidien au centre de vos œuvres ?
Le quotidien, je ne sais pas. En tout cas, moi, ce que j'ai envie de redire, c'est plutôt cette histoire du réel qui m'inspire et qu'ensuite je fais vraiment basculer dans la fiction. Lorsque je travaille sur les installations, j'ai vraiment envie de raconter des histoires, en fait.
Il y a ce côté narration aussi qui est important.
Oui.
Ouais. Moi, je me retourne à nouveau vers François du collectif Blast. J'imagine que quand on accueille un ou une artiste en résidence, à la fois on sait un peu ce qui va être fabriqué, on voit un petit peu sur quoi travaille cette personne, et puis il y a plein de choses qui sont aussi de l'ordre de la surprise qu'on va découvrir. C'est aussi des cartes blanches. Dans le projet de Karl Marquis, est-ce qu'il y a déjà des choses qui vous touchaient ?
Chaque artiste est très singulier dans son approche de création, quoi. Donc c'est très intéressant de découvrir aussi tout ce qui n'est pas visible, en fait, et qui fait partie intégrante de l'œuvre. On le répétera jamais assez, mais chaque œuvre a une histoire, et cette histoire elle est pas visible, elle est sous-jacente, elle traverse les objets qui sont présentés, puisque la pratique des arts visuels c'est vraiment une grosse différence d'ailleurs avec le spectacle vivant, par exemple, c'est que on présente des objets, des choses inanimées mais qui ont une âme dans le meilleur des cas, comme disait le poète. Et là, on a besoin aussi d'un récit, hein, ou en tout cas d'un potentiel proposé par l'artiste qui nous emmène ailleurs simplement que dans ces objets immobiles, morts en quelque sorte, et qui deviennent vivants.
Morts ou inertes.
Inertes en tout cas.
Ouais. Et je me suis demandé aussi, le collectif Blast, il est porté par des artistes qui ont aussi une pratique, qui font des pièces. En quoi accueillir d'autres artistes, ça peut nourrir notre travail d'artiste ?
C'est nécessaire, enfin en tout cas pour ce qui nous concerne, moi personnellement, puis Cécile Benoiton qui s'occupe du collectif aussi, et puis les autres artistes qui sont présents aussi, ça crée des dynamiques d'échange, hein, tout simplement, voilà. Donc nous on accueille des artistes qui viennent d'Angers, d'un peu plus loin, comme Karl qui vient de Rennes, mais d'encore plus loin. Donc tout ça crée des dynamiques intellectuelles, on peut comparer nos points de vue aussi, on peut échanger sur notre conception du monde, à travers des choses très simples, hein, mais bien sûr, on peut refaire le monde, hein, on peut le refaire, bien sûr, à sa façon, dans le meilleur des cas, ça peut faire bouger des lignes, même si ça paraît toujours un peu dérisoire, on s'aperçoit que l'art, concrètement, comme pour reprendre ton terme tout à l'heure, je ne sais pas si on peut appliquer les idées à des choses vraiment extrêmement concrètes comme ça. Mais en tout cas, c'est pétri de langage, et comme nous sommes des êtres de langage, qu'on est pris dans ses rats, on ne peut pas y échapper. Donc on va s'en faire un récit. Si on a affaire à un artiste, on va en faire quelque chose. Quoi ? Mystère. Hein. C'est comme dans l'enseignement. On ne sait jamais très bien ce qu'on transmet.
D'ailleurs, en parlant d'enseignement, vous avez beaucoup travaillé dans les écoles ou avec des enfants. Quel genre d'impact artistique ça apporte, le fait de travailler justement dans, avec des enfants dans
et
des
plus
crèches.
Jeunes et plus pour votre travail aussi, Karl Marquis.
Le principe, c'est qu'effectivement, lorsque je fais des projets avec des enfants, eh bien, ça me permet de continuer à les connaître. Par exemple, récemment, j'ai fait un travail avec une école à Rennes. Eh bien, ça a déclenché le travail d'un texte qui s'appelle Cité Papillon, qui sera d'ailleurs l'objet de la performance vendredi prochain.
Ce vendredi-là, le 31 octobre.
Ce vendredi, tout à fait.
Ouais.
Donc voilà, ça me permet de continuer à les croiser et à les connaître. Parce qu'un enfant de 4 ans change, forcément.
Oui, on n'a pas les mêmes 4 ans selon les années.
Tout à fait.
Justement, par rapport à cette résidence, donc vous êtes arrivé mi-octobre.
Oui.
Là, c'est presque la fin de la résidence. Elle se termine vendredi. Est-ce que vous pouvez nous décrire ce que vous avez mis en œuvre, ce que vous avez construit, ce que vous avez fabriqué? Parce que c'est vraiment un temps de création. Donc qu'est-ce qu'on peut commencer à voir, même si ce n'est pas définitif encore?
Alors, ce que je propose, ça s'appelle le jeu des 7 différences. En fait, je veux transposer les fameuses images qu'on trouve dans les livres pour enfants où il faut découvrir les 7 différences. Et donc, moi, je transpose cette histoire dans 2 volumes qui sont 2 petites maisons qui, lorsqu'on arrive, paraissent strictement identiques. Mais, bien sûr, en se promenant dans l'espace de la cabine, on va découvrir les 7 différences. Alors, il y a des différences qui vont sauter aux yeux, parce que le sous-titre de ce travail s'appelle « Gros comme une maison ». Donc, il faut que ça se voit vraiment. Et puis, d'autres qui seront évidemment plus subtils. Voilà, donc il faudra faire le tour pour découvrir...
Les deux petites maisons, c'est des maisons quand même qui font plus de 2 mètres de haut.
On
de
peut
large,
rentrer dedans.
Oui, ce sont quand même des volumes assez importants.
Oui.
Ouais. Dit la personne qui les a portés en partie. C'est peut-être pour ça. Non, je... En tout cas, effectivement, on peut pouvoir rentrer dans les maisons pour voir les différences.
Alors, c'est pas certain, c'est parce pas certain. Que le projet évolue. Et... pour les personnes qui viendront visiter la fin du travail vendredi et samedi prochain, eh bien vous verrez qu'en fait on ne peut pas entrer, parce qu'il y a un travail sur où est-ce qu'on est en montage, est-ce qu'on est en démontage, est-ce qu'on arrive, est-ce qu'on part.
Ouais.
Donc non, on peut pas entrer.
Okay.
En fait.
J'avais une question. Du coup, avec ce projet, qu'est-ce que vous cherchez? Est-ce que vous avez une intention? Qu'est-ce que vous cherchez à explorer dans ce principe de cette différence avec le spectateur?
C'est le jeu, comme je disais tout à l'heure, c'est un des axes de mon travail, donc avec l'enfant, c'est la notion d'habiter. Donc là, on est vraiment sur le jeu. Je propose vraiment un jeu aux visiteurs.
Et moi, j'ajouterais juste une chose, c'est qu'on en a parlé avec Karl à un moment donné, pour répondre aussi à votre question, c'est sur l'ambiguïté signifiante. C'est-à-dire qu'il y a toujours un moment où on a une hésitation, comme le disait Karl. Par exemple, la maison, on peut rentrer dedans, on ne sait pas très bien si elle est en construction, en train d'être construite, ou si c'est terminé. Et là, il y a tout un jeu d'ambiguïté signifiante là-dessus. Et c'est assez intéressant, parce que ça nous laisse la possibilité de projeter notre propre narration.
D'accord. Et alors, vendredi, c'est le finissage, c'est le vernissage de fin de résidence. C'est à partir de 18h30. C'est au PAD, qui est 3 boulevard d'Avier. Vous avez travaillé sur une performance, Karl.
Alors, oui, tout à fait.
Je sais que tout bouge aussi, parce que déjà, c'est une résidence de création. Par-dessus ça, il y a aussi les mesures sanitaires qui peuvent éventuellement faire évoluer ce qu'on peut montrer, ce qu'on ne peut pas montrer. Là, aujourd'hui, où est-ce que ça en est? Est-ce qu'on pourra avoir une résidence, une performance, pardon, vendredi, ou pas forcément?
Alors, apparemment, oui, même 2.
Quelle joie.
Puisque y a une performance qui est programmée le vendredi à 18h, et à 19h, et une autre à 20h.
Donc c'est à partir de 18h30 on peut venir au collectif.
Tout à fait.
Et donc vous avez travaillé sur 2 performances.
Tout à fait.
Avec une jauge réduite, hein, puisque voilà, Covid oblige. On a la possibilité habituellement d'accueillir 48 personnes, ce sera la moitié.
Donc 24.
Oui, c'est ça.
Ouais. Et sur les performances que vous avez imaginées, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Est-ce qu'elles mettent en œuvre ces 2 maisons?
Alors, absolument pas.
Mmh.
En fait, la performance, c'est une lecture qui est mise en musique. Et Le texte, en fait, c'est le texte dont j'ai parlé tout à l'heure qui s'appelle Cité Papillon. On a dans ce texte ce qu'on retrouve depuis de nombreuses années dans l'aménagement des villes, c'est tous les éléments ruraux qui intègrent la ville, comme les prairies, les coulées vertes. Donc je me suis amusé à écrire un texte autour d'une ville comme ça qui intègre à la fois des éléments ruraux et voilà, qui associe comme ça plein d'éléments ruraux avec la ville.
D'aménagement.
Ouais. Et on a une petite fille qui s'appelle Zora qui se lève le matin et qui ouvre sa fenêtre et qui voit la ville qu'elle connaissait qui a complètement changé. Donc elle décide d'aller voir un peu ce qui se passe.
Donc ce sera au cœur des performances.
Tout à fait.
Très bien. Est-ce qu'il y a des choses fondamentales qu'on a oubliées? Car sinon, je vois mon horloge tirant de cette émission.
Ben non, on n'a plus qu'à vous remercier de votre accueil et de
votre politesse.
Proposition d'intervention à Radio G. Radio formidable.
Je redonne toutes les infos donc, sur cette résidence qui se termine vendredi. Donc, c'est la résidence de Karl Marquis qui est accueillie au collectif Blast. Si vous avez envie de voir le résultat, c'est à partir de 18h30. L'entrée est libre. Gratuite.
Tout à fait.
Vous venez avec votre masque et c'est tout.
Voilà.
Et voilà. On a dit à 19h et 20h.
19h et 20h, les deux performances, tout à fait.
Et puis après, 21h, on rentre chez soi, comme chacun sait. Merci beaucoup, François. Merci, Karl.
Merci à vous.
Merci.
On va poursuivre l'émission en musique, dans l'oreille curieuse. Et j'ai choisi Turn Miles de Maribou State. Voilà, je vous propose d'écouter ça. Vous êtes à l'écoute de l'oreille curieuse sur le 101.5 FM de Radio G. Et après avoir parlé d'art visuel, on va retrouver le croque-philo, un très beau goûter préparé par Émilie.
Bonsoir à celles qui viennent de nous rejoindre et bienvenue dans le croque-philo. Aujourd'hui, on va parler de la philosophie et des femmes. Et j'aimerais commencer par une petite expérience ici dans le studio et je vous invite à la faire aussi à la maison. Annie, Céleste, Mélie, pourriez-vous nous citer des noms de philosophes hommes, toute époque confondue?
Aristote, Platon, me laissez pas seul.
Pythagore.
Bergson. Preciado, qui est plus contemporain.
Rousseau.
Il y avait Rousseau. Ouais.
Montaigne.
Ouais. Du collège.
Non, ça compte pas.
Il est philosophe.
Ouais, alors, voilà, ça vient finalement assez facilement. Et maintenant, si on fait la même chose avec des noms de philosophes femmes. Je vous écoute.
Est-ce que Simone de Beauvoir, ça marche ou elle faisait plutôt de la socio?
Ça marche.
Personnellement, je ne connais pas trop les philosophes.
Je ne connais pas trop non plus.
Adèle Vendrette, elle est philosophe aussi. Elle présente
Adèle
des émissions.
Oui, tout à fait.
Pour une petite émission.
Ouais, c'est un peu plus délicat. Ouais. L'expérience montre généralement que, effectivement, on a peu accès à la philosophie des femmes et par les femmes. Et justement, aujourd'hui, on va se demander, parler des femmes et de la philosophie, c'est déjà se demander d'où l'on part et ce que nous interrogeons vraiment. Est-ce la question du genre féminin ou la sexuation de la pensée? Il ne s'agit pas du tout d'introduire l'idée d'une pensée féminine ou de relever une quelconque tentative d'essentialisation de la pensée en sexuant des philosophies, des idées. Ce serait même là échapper à toute possibilité de réflexion philosophique en pointant par avance un sens prédéterminé par le texte et échappant à toutes les complexités sociologiques, historiques, politiques qui constituent la vie de la discipline dans sa réalité propre. Mais il reste que la philosophie se conjugue surtout jusque-là au masculin. Preuve s'il en est, le programme de philosophie des classes de terminale qui a dû attendre 7 rentrées 2020 pour voir entrer 5 femmes, car jusque-là il n'y en avait qu'une, c'était Hannah Arendt. Donc Hannah Arendt, philosophe, politologue, journaliste allemande, qui a travaillé notamment sur le totalitarisme, la modernité, la philosophie de l'histoire. Et dans les textes philosophiques plus généralement, de Platon à Derrida, il s'agit surtout d'une identification des femmes à leur sexe, face à l'inverse, à une neutralisation du sujet philosophique qui concerne l'ensemble au sens masculin du terme. Cette radicale distinction entre les genres, c'est précisément ce qui interroge le statut des femmes comme sujet pensant, philosophant, et la place précisément qui leur est accordée dans l'histoire de la pensée. Non pas comme simple objet d'analyse, mais comme actrice engagée dans la réflexion. C'est parce qu'implicitement, le sujet qui philosophe se définit comme sujet masculin que la position occupée par les femmes est reléguée dans une sphère prédéfinie d'égalité mais limitée dans une structure générale qui n'est pas du tout interrogée. On trouve en effet peu, voire pas du tout, d'affirmation philosophique qui fait appartenir inconditionnellement les femmes à l'exercice de l'humanité. Souvent, on trouve des points sur la question sans véritablement les affronter, portant sur les tâches sociales, le mariage, la famille, le rapport sexuel, la citoyenneté, l'accès au savoir. Mais la réalité des femmes et de leur engagement est souvent niée. Aussi, lorsqu'il s'agit de penser la femme comme un éternel idéalisé qui laisse bien peu de place aux femmes dans la réalité des réflexions qu'elles ont portées. Car penser l'existence de la femme, en considérant tacitement qu'elle se conjugue à l'humanité, choisir de revendiquer le terme d'humanisme au lieu d'user du terme de féminisme, C'est oublier au mieux ou nier une réalité bien tangible, bien concrète, celle des femmes, de leurs actions et de leurs pensées, et aussi de l'invisibilité, pardon, de leur travail, de leurs textes, de leurs pensées. Et vous qui êtes là dans le studio, est-ce que vous avez une vision, ou quelle vision vous avez de la philosophie antique sur les femmes? Comment, d'après vous, on pouvait parler des femmes? Est-ce qu'il y a des choses que vous connaissez ou que vous imaginez, peut-être?
On n'avait pas les questions, c'est dur. Hein. comment les philosophes antiques parlaient des femmes?
Ouais, ou quelle, selon vous, quelle idée pouvait-il en avoir
Je pense que c'est peut-être comme aujourd'hui, ils parlaient de figures historiques comme des grandes personnes et des figures plus contemporaines comme des personnes à rabaisser ou des mauvaises personnes.
Ouais. Alors, effectivement, il y avait l'idée, notamment chez Aristote, mais on retrouve ça dans l'ensemble de la philosophie, avec Rousseau également et beaucoup d'autres, ça c'est beaucoup radicalement différent par rapport à aujourd'hui, mais d'une infériorité intellectuelle, physique, morale des femmes, et c'est ça qui a fait l'histoire et les grands repères de la discipline. Par exemple, on peut parler de la misogynie d'Aristote, qui disait des femmes qu'il ne leur manquait que la science de l'âme, comme on dirait aujourd'hui d'un animal qu'il ne lui manque que la parole. Mais aussi même l'ambivalence du siècle des Lumières, qui constatait souvent les inégalités politiques et sociales entre les femmes et les hommes, mais qui donnait des justifications à partir de la nature supposée des femmes, qui serait de plaire aux hommes et d'être mères. Et le fil commun qui a écrit toute l'histoire de la philosophie, c'est l'exclusion des femmes de la sphère politique et de son action. Chez Platon, par exemple, on trouve une ouverture, car les femmes sont en théorie, chez lui, en libre et égales aux hommes, mais elles sont reléguées à une place idéalisée dans certains de ses dialogues, et il les rejette par là même, hors de toute action morale et politique véritablement engagée, voire même de toute position sociale établie possible. Ce n'est donc pas si étonnant, alors que nombre des femmes philosophes le sont et l'ont été sur des terrains de la morale et de la politique, dans des pensées souvent dissidentes, qui valorisent l'action et une lecture active du monde, y compris en s'appropriant parfois la réflexion sur la condition même des femmes. C'est d'ailleurs en ce sens que Simone Veil, la philosophe avec un W et non pas un V comme la femme politique, Simone Veil et Hannah Arendt ne souhaitaient pas, au XXe siècle, être considérées comme philosophes, mais préféraient se dire résistantes, militantes pour l'une et analystes politiques pour l'autre. C'était leur moyen de préserver leur action, la portée de leur pensée politique, sans être happées par le genre masculin, en sachant par là que la force de leur pensée y perdrait, sans doute. Et si on parle d'action, d'engagement, finalement, on parle féminisme. Et à quoi pensez-vous quand on parle féminisme, quand on formule féministe?
Ça dépend, en vrai, ça peut aller dans l'extrême. Enfin, je ne sais pas si c'est l'extrême comme les fémines, par exemple, ou juste des femmes qui demandent juste la même égalité qu'avec les hommes.
Ouais, donc on pense effectivement à des engagements et des luttes pour les droits civils et à un activisme, voilà, parfois très militant. Et finalement, commun aussi les femmes en philosophie et les femmes intellectuelles, parce que l'engagement des femmes, il est pluriel, et si effectivement les femmes ont fait dans leur histoire, avec des engagements de terrain, le plus souvent une volonté d'expression qui n'est pas justement celle d'un individu sexué, hein, mais d'un engagement qui vise à participer à l'histoire. Cet engagement, il peut être intellectuel comme philosophique, historique, sociologique, littéraire, politique. Mais dans toutes les particularités de ces engagements, les femmes intellectuelles participent à l'histoire. Et on ne peut pas faire l'économie du mouvement de libération des femmes dans toute la diversité de leurs actions, même en philosophie. car c'est bien à l'épreuve du monde et de l'histoire en marche que l'on peut voir la reconnaissance d'une pensée des femmes. D'ailleurs, on remarque que les femmes qui sont entrées tout dernièrement dans le programme scolaire de philosophie se situent dans l'époque contemporaine. Cette époque qui est la nôtre et qui a débuté il y a environ un siècle, époque qui n'a de cesse justement d'interroger la place des femmes dans la vie civile, sociale, culturelle, politique et intellectuelle. Cette interrogation-là semble accompagner la réalité de l'engagement des femmes et reconnaître mieux les rôles de chacune dans leur discipline, notamment la philosophie. Et cela passe par des actions. Pour rester sur le programme scolaire de cette réforme du lycée, à un retour actif sur la réalité du travail de ces femmes. Car la philosophie et la philosophe comme sujet pensant a été jusque-là interrogée en creux le plus souvent, par son absence, par sa place marginale, occupée dans les programmes, dans l'histoire, par une invisibilité des textes. Par exemple, pourquoi ne pas penser, interroger la pensée de Karl Marx comme elle a été discutée par Simone Veil ? On pourrait dire qu'il s'agit surtout du passé et que la place des femmes aujourd'hui évolue, que leurs paroles, leurs pensées trouvent leur place, la place qui leur revient. Mais l'histoire a façonné la place des femmes jusque dans leur engagement actuel. Et si, par exemple, la question du corps des femmes est toujours autant d'actualité sur l'avortement, la PMA, la GPA, les violences, l'habillement et les injonctions qui sont faites aux femmes là-dessus, c'est parce que déjà au début était le corps des femmes. Chez Platon, par exemple, et de façon commune dans la Grèce antique, on lit des femmes, on découvre des femmes dont le corps est à la fois vierge et fécond. Une contradiction qui fige complètement leur existence et semble les extraire de toute réalité sociale et politique possible. Et l'histoire, justement, montre que les femmes ne se sont pas trouvées dans les mêmes engagements que les hommes. Elles n'ont pas eu à lutter sur les mêmes choses. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Elles ne sont que 6 dans un programme scolaire d'auteurs qui en compte plus de 80. Et ce, parce que leurs textes ont été rendus invisibles par une histoire faite par les hommes pour des hommes. Pourtant, leurs engagements ne se réduisent pas à certains événements ou à des périodes particulières de lutte bien réelles pour leurs droits civils. Elles ont participé à la culture des mots, des lettres et de la pensée. Interroger la place des femmes dans la vie intellectuelle et précisément dans la philosophie, c'est donner une place, une nouvelle direction à l'histoire, composer avec elle, ne pas les exclure enfin de l'histoire en marche et reconnaître leurs engagements tels qu'ils sont, et ce sans trahir l'histoire, mais au contraire en l'éclairant. Parce que si nous avons commencé aujourd'hui là, dans cette chronique, à nous demander ce que nous interrogeons, d'où vient le questionnement sur les femmes et la philosophie, c'est pour mieux éclairer le chemin que nous empruntons aujourd'hui avec les femmes philosophes contemporaines et mieux entendre leurs pensées. Et pour échapper à l'invisibilité des femmes dans les textes philosophiques, pour mieux affirmer qu'elles sont bien des sujets pensants comme les autres, quoi de mieux que de donner à lire les textes des femmes elles-mêmes ? C'est en ce sens que Simone de Beauvoir, Simone Veil, avec un W, les Britanniques, Elisabeth Anscombe et Iris Murdoch, et la Suisse, Jeanne Hersch, ne sont pas seulement des noms nouveaux dans un programme, mais en tant que philosophe, elles incarnent aussi des femmes d'action. Et c'est précisément la pensée de quelques-unes d'entre elles que nous aborderons lors des prochains Croque Philo.
Merci beaucoup, Émilie. On retrouve le prochain Croque Philo dans 2 semaines. Au fur et à mesure de la chronique, j'ai pensé à plein d'autres noms de philosophes femmes, parce qu'elles existent. Et puis ça m'a fait penser... je peux faire une ouverture ? Tu m'autorises ?
Bien sûr.
Ça m'a fait penser au travail de Paul B. Preciado, qui est philosophe aussi, et qui se situe justement précisément en dehors de la binarité du genre, des sexualités femmes-hommes, qui aborde aussi le fait que on peut avoir un spectre beaucoup plus large. Mais bon, on a le temps d'en parler.
Tout à fait. Et ça me fait penser aussi à une référence que j'avais envie de vous donner. Cette année est sorti chez Folio Poche l'ouvrage de Geneviève Fraisse, spécialiste de la question des femmes en littérature et en philosophie, et qui s'appelle tout simplement « Féminisme et philosophie ».
C'est noté. Merci beaucoup, Émilie.
On est presque pas en retard. Voilà, on a un peu de piano pour nous accompagner. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute de cette oreille curieuse. On se retrouve demain à 18h10, mais si vous voulez réécouter les podcasts, ils sont en ligne sur le site de Radio G, à la page de l'oreille curieuse. Demain, on sera avec Le Quai, CDN, CNDC, de la danse, du théâtre. Et d'ici là, n'hésitez pas à nous écrire, que ce soit par mail à prog.radioG@gmail.com, par exemple pour nous souffler une idée de sujet pour Croque-Philo, qui sais-je, ou sur les réseaux sociaux de Radio G. À 19h, vous retrouvez Ça dégouline dans le cornet, émission rock'n'roll qui sera en direct jusqu'à 20h30, car ensuite ils doivent quitter le studio, vous savez bien. Bon, je vous souhaite une très bonne soirée, à demain.
À demain.
Bonne soirée, à demain.
5 FM.